Bonjour à tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je continue les fondements de la culture indienne, la littérature indienne au chapitre 1 de Sri Aurobindo. Le Veda est la création d'une ancienne mentalité intuitive et symbolique à laquelle le mental contemporain fortement intellectualisé et devenu totalement étranger. Gouverné d'une part par la pensée rationnelle et ses conceptions abstraites et de l'autre, par des réalités de la vie et de la matière telles qu'elles se présentent au sens et à l'intelligence positive, sans y chercher aucune signification divine ou mystique. L'imagination est pour lui plus un jeu, une fantaisie artistique qu'une porte ouvrant sur la vérité. Et il ne se fie pas à ces suggestions que lorsqu'elles sont confirmées par la raison logique et l'expérience pratique. Il n'est conscient que des intuitions passées au crible de l'intellect. Et ce monde presque toujours récalcitrant vis-à-vis des autres. Il n'est donc pas surprenant que le Veda nous soit devenu inintelligible, à l'exception des couches les plus superficielles de son langage. Et encore, ne le comprenons-nous que très imparfaitement, car nous avons perdu la clé de son ancienne prononciation, et les interprétations hautement incongrues récemment échafaudées ont réduit cette grande création de la splendide jeunesse du mental humain à un gribouillage fumeux n'ayant plus figure humaine, pourri, pot pourri, incohérent, relatant des absurdités d'une imagination primitive, embrouillant à plaisir ce qui serait autrement le simple mémoire plat et banal d'une religion naturaliste ne reflétant et ne pouvant satisfaire que les désirs brutaux et matériels d'un mental de vie barbare. Par la suite, la pensée scolastique et ritualiste des prêtres et des pandites indiens ne vit dans le Veda guère plus qu'un livre de mythologie et des cérémonies sacrificielles. Quant aux érudits européens, en y recherchant que ce qui pouvait avoir quelques intérêts rationnels, l'histoire des mythes, les notions religieuses populaires d'une humanité primitive, et il lui firent encore plus de tort, et en insistant sur une interprétation purement extérieure, le dépouillement toujours plus de son intérêt spirituel, de sa beauté, de sa grandeur poétique. Mais pour les rishis védiques, ou pour les voyants et les penseurs qui leur succédèrent, et qui, partant de leurs intuitions lumineuses et riches de sens, développèrent leurs originales, leurs admirables structures conceptuelles et linguistiques, bâties sur une révélation et une expérience spirituelle sans précédent. Le Veda était bien autre chose. Pour les anciens voyants, le Veda était le mot révélant la vérité et revêtant d'images et de symboles les significations mystiques de la vie, découverte et dévoilement divin des potentialités du Verbe, de ses mystérieux pouvoirs de révélation et de création, non le mot de l'intelligence logique, rationnelle ou esthétique, mais la parole rythmique, intuitive et inspirée, le mantra. Images et mythes étaient librement utilisés non comme des emportements de l'imagination, mais comme paraboles et symboles des choses qui, pour ceux qui les énonçaient, étaient absolument réelles et n'auraient pas autrement trouvé dans le langage leur forme intime et native. L'imagination elle-même était la prêtresse des réalités plus grandes que celles qui s'offrent et s'imposent à nos yeux et à notre mental, limitées par les suggestions extérieures de la vie et par l'existence physique. Telle était leur conception du poète sacré. Un mental visité par une lumière supérieure et par les formes que celle-ci donnait aux mots et à l'idée, un voyant et un entendant de la vérité, Kavaya Satya Shruta. Les poètes du chant védique ne considéraient certes pas leur fonction telle que la représentent les érudits modernes. Ils ne se voyaient pas comme une espèce supérieure de guérisseurs fabricants d'hymnes et d'incantations à l'intention des membres robustes de la tribu, mais comme des voyants, des penseurs, rishis d'Ira. Ces chantres se sentaient animés d'une haute vérité mystique et cachée, se disaient détenteurs d'un pouvoir d'expression ouvert à la connaissance divine et déclaraient expressément que leurs paroles étaient des secrets qui ne dévoilent leur pleine signification qu'aux voyants. Kavaye Nivashanani Ninya Vashansi. Et pour ceux qui leur succédèrent, le Veda était le livre de la connaissance et même le livre de la connaissance suprême, une révélation, une grande proclamation de la vérité éternelle, impersonnelle, telle que la virent et l'entendirent en leur expérience intérieure des penseurs inspirés et semi-divins. Ils avaient volontairement chargé d'une puissance significative, symbolique et psychologique les moindres circonstances du sacrifice duquel étaient composés les hymnes, comme le savaient pertinemment les auteurs des anciens brahmanas. Les penseurs des Upanishads considéraient les versets sacrés, dont chacun à leurs yeux comportait une signification divine, comme les mots « semence », « profond » et « fécond » de la vérité qu'ils cherchaient, et l'autorité suprême sur laquelle ils s'appuyaient en prononçant leur sublime parole était une citation empruntée à leurs prédécesseurs, suivie de la formule Tad Esha Rishabhichyutkshta. Tel est ce mot qui fut prononcé par le Rig Veda. Les érudits occidentaux préférèrent imaginer que les successeurs des rishis se trompaient, que mis à part quelques hymnes tardifs, le sens qu'ils prêtaient aux anciens versets étaient faux ou imaginaires, et que même séparés des rishis non seulement par des éternités de temps, mais par des golfs et des océans de mentalité intellectualisée, en savait infiniment plus. Le simple bon sens devrait pourtant nous prouver que ceux qui, à tous ces égards, furent si proches des premiers poètes étaient les mieux placés pour du moins appréhender la vérité centrale du problème. Il nous suggère en tout cas que le Veda était plus vraisemblablement ce qu'il professait être, la quête d'une connaissance mystique, première forme que le mental indien donna à son effort inlassable. Jamais, en effet, il ne le trahira pour atteindre par-delà les apparences du monde physique et grâce à ses propres expériences intérieures. Les divinités, les pouvoirs, l'existence en soi de l'un que les sages désignent sous des noms divers, comme le suggèrent ces mots célèbres du Veda, où ils énoncent son secret central. Ekam sadvipra bahuda vadanti. Pour bien comprendre le véritable caractère du Veda, la meilleure méthode consiste à prendre un passage au hasard et à traduire le plus littéralement possible ses images et ses expressions propres. Un célèbre érudit allemand, toisant du haut de son piédestal d'intelligence supérieure les sottes gens qui voient du sublime dans le Veda, déclare qu'il n'y a là que conception enfantine, stupide et même monstrueuse. Que ce livre est assommant, mauvais et banal, que la nature humaine y est représentée à un niveau inférieur d'égoïsme et d'attachement au bien de ce monde, et que ça et là seulement surgissent quelques rares sentiments venus des profondeurs de l'âme. Nous pouvons lui prêter ce visage si nous attachons nos propres conceptions aux paroles des rishis. Mais si nous les lisons telles qu'elles sont, sans chercher à leur faire dire ce qu'à notre avis auraient dû dire et penser ces hommes primitifs, nous découvrirons au contraire une poésie sacrée, sublime et puissante en son langage et ses images, bien que nous préférions et apprécierions aujourd'hui un autre type de langage et une autre forme d'imagination. Une poésie à laquelle l'expérience psychologique donnait profondeur et subtilité et qu'inspirait une âme où se meuvent paroles et visions. Écoutons plutôt la parole même du Veda. L'un après l'autre naissent les états d'être, couche après couche, s'éveille à la connaissance. Dans le giron de la mer, ils voient totalement. Ils sont allés à lui, acquérant une vaste connaissance. Ils veillent sur la force sans jamais dormir. Ils ont pénétré dans la cité fortifiée. Les peuples nés sur terre accroissent la force lumineuse du Fils de la Blanche Mère. Il porte de l'or à son cou, large et sans parler, comme par le pouvoir de ce vin de miel. Il est un chercheur de plénitude. Il est comme du lait plaisant et désirable. Il est cela qui n'a point de compagnon. Et il est avec les deux qui sont des compagnons. Il est tel une chaleur qui est le ventre de la plénitude. Il est invisible, invincible, et nombreux sont ceux qu'il conquiert. Joue au rayon, manifeste-toi. Rigveda 5, 19. Ou encore l'hymne suivant. Ces flammes de toi, divinité pleine de force, qui se meuvent de point en point et vont s'accroissant et puissantes. arrache de celui qui possède une autre loi tout ce qui est hostile et tordu. Ô feu, nous te choisissons comme prêtre et moyen de rendre effective notre force et dans le sacrifice, te portant la nourriture de ton plaisir, nous t'appelons par le mot. Ô Dieu, des parfaites œuvres, permets que nous vivions pour la félicité, pour la vérité, que nous nous réjouissions avec les rayons, que nous nous réjouissions avec les héros. Et enfin, prenons le corps principal du troisième hymne qui suit, rédigé selon les symboles habituels du sacrifice. En tant que Manou, nous t'installons à ta place. En tant que Manou, nous t'allumons au feu. Ô Anguiras, en tant que Manou sacrifié au Dieu pour celui qui désire les divinités. Ô feu, comblé, tu t'embrasses dans l'être humain et les louches de l'oblation vont à toi continuellement. Tous les dieux, trouvant leur seul plaisir en toi, t'ont fait leur messager et te servant au voyant les hommes dans les sacrifices adorent le Dieu. Que le mortel adore le Dieu, le feu divin, par le sacrifice aux divinités. Embrasé, fais jaillir tes flammes aux brillances. Prends place sur le siège de la vérité. Prends place sur le siège de la paix. Quelle que soit notre interprétation de ces images, nous avons là une poésie mystique et symbolique. C'est là le vrai Veda. Alors je termine les fondements de la culture indienne. Le chapitre, c'est la littérature indienne, number one, le chiffre 1. Chapitre 1, les fondements de la culture indienne, écrit par Sri Aurobindo. Je remercie infiniment pour cette lecture merveilleuse, Sri Aurobindo et Douce Mère. Merci Priya, Ganga Lakshmi, House of Mother Ajanda, Savitri, Bhavan.
This is Auroville Radio, voices from the city of Dome.